Éric Vandamme.
9 lettres, avec enculage au pluriel.
Enculage.
Oui, mais des mouches exclusivement.
Les briques en Bresse, le pavé dans la mare.
Avec Briques et Pavés, l'émission qui dégrange.
Bonjour, vous êtes bien sur les ondes de Radio B avec
Agnès,
Philippe,
Sabrine,
Franck
et Florine, ainsi que nos rapporteuses de terrain, Cathy et Émilie. Une émission collective à géométrie variable des bénévoles de la Grange aux Parapluies, association atypique et espace de vie sociale qui vous propose tous les mois un éclairage sur un thème qui nous tient à cœur. Cette fois, nous ferons nos jeux. Nous parlerons des Jeux Olympiques, de l'addiction au jeu, du coaching du jeu et des tricheurs. Mais avant, retour sur la fête du jeu de la Grange aux Parapluies le 1er mai dernier. Alors, vous y étiez ?
Oui !
Alors, qui veut dire un petit mot ?
Oh, moi, c'est sur le spectacle. Il était, encore une fois, choisi aux petits oignons. Bravo la Grange !
Du monde, que du monde pour jouer. Oui. C'était extraordinaire.
En plus, il a même fait beau. On avait prévu la pluie, mais il a fait beau.
Oui.
Et ce qui est extraordinaire, je crois, ce qui a beaucoup plu aux gens, c'était la construction de voûtes. Ça, c'était magnifique.
Moi, je suis pas joueur, mais j'ai compris que les jeux de société pouvaient faire société.
Oui. J'ai découvert le jeu du toc, le jeu Bressan. Incroyable, je vais m'y mettre.
Un succès fou qui montre l'intérêt pour toutes et tous, quel que soit l'âge, de jouer.
Dans le cadre de cette émission des briques et pavés sur le jeu, j'ai rencontré un grand joueur, un joueur invétéré devant l'éternel. Alors, dis-moi, à quel jeu est-ce que tu joues ?
Je joue aussi bien que ce soit des jeux de grattage, les courses, les paris sportifs, mais aussi les jeux de société. Après, j'aime beaucoup aussi les enchères, ça peut être aussi considéré comme un jeu. Parce que c'est quelque chose que j'ai fait depuis de nombreuses années et que je continue à faire régulièrement.
D'accord. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans le jeu ? Qu'est-ce qui te motive ?
La motivation, c'est cette montée d'adrénaline qu'on a au moment où on va gagner, où on touche potentiellement le gain. Et des fois, on perd, mais on essaye de gagner le plus possible et le mieux possible.
Et est-ce que tu te souviens de quand tu as commencé à jouer, qu'est-ce qui a pu être un déclencheur de cet intérêt pour le jeu ?
Oh, moi j'ai toujours été baigné dans le jeu, j'avais des grands-parents qui me poussaient à jouer, donc très vite j'ai commencé le jeu. J'avais 6-8 ans, je commençais déjà à aller au PMU avec mon grand-père, ma grand-mère rentrait du marché avec des millionnaires à gratter, donc j'ai toujours été bercé là-dedans.
D'accord. Et tu dis aussi que tu joues aux jeux de société. Alors ça, c'est pas l'appât du gain, c'est...
Non, c'est plus un divertissement, mais c'est toujours dans l'objectif de gagner. Donc quand on commence à jouer, il faut gagner. Et on travaille aussi, j'ai souvent été mauvais perdant, mais avec les années, je le suis moins, je pense.
C'était ça ma question, est-ce que tu es bon ou mauvais perdant ?
Non, on va dire qu'avec le temps, je me suis calmé.
Et tu joues avec tes enfants aussi ?
Oui, avec enfants, grands-parents, voilà, ça va de tous les âges. Et c'est ça qui arrive avec le jeu, et je trouve qu'une soirée entre amis doit se ponctuer avec une partie de jeu, que ce soit de cartes, de société, ou de... Tous les jeux sont possibles.
Et est-ce que tu penses que tu joueras toute ta vie ou que tu vas t'arrêter? Est-ce que quelque chose te ferait arrêter?
Aujourd'hui, je vois pas comment je pourrais m'arrêter, voilà, à moins d'être enfermé. Mais à l'instant T, je pense pas m'arrêter comme ça. J'aime trop le jeu.
Donc le jeu, c'est une addiction?
Oui, je pense que le jeu est une drogue, oui. Oui, je pense que ça en fait partie, des drogues.
D'accord, mais une drogue que tu aimes bien.
Bon, oui, mais c'est pas la seule que je prends, je fume aussi.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage et à bientôt.
J'étais cool, assis sur un banc. C'était au printemps, il cueille une marguerite. Ce sont deux amants, overdose de douceur. Ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup, à la folie passionnément. Mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale, d'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas de nos prérogatives. Tchernobyl, tchernos débiles, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets bannis, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Caroline.
Brique et pavé, l'émission qui dégrange.
Pour cette émission, vous n'échapperez pas à un jeu. Je vous propose un question pour un champion ou une championne, un peu d'inclusion, hein, n'est-ce pas? Jingle, une famille en or, Francky! Ça, c'est une référence aux futures médailles d'or qu'on n'aura peut-être pas. Facile le jeu. Une définition dite très 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 vite et un jeu de société plus ou moins célèbre à deviner. Vous êtes prêts?
Oui.
3, 2, 1, partez! Je suis un jeu qui prône le capitalisme en incitant les riches à s'enrichir et aux pauvres à galérer encore plus et à finir en prison, car là au moins on les oblige pas à dormir dans des hôtels au prix exorbitant. Je suis...
Le risque.
Non.
Les riches.
Le Monopoly. Un point pour Agnès. Je suis un jeu de lettres que ma mère adore. D'ailleurs, elle connaît tous les mots dans le dictionnaire que l'être humain lambda ne connaît pas, comme Xylos qui fait un max de points, ou Tioff qui est une sorte de mérou qui est lui-même une sorte de poisson. Je suis...
Le Scrabble.
Ouais, facile.
Je suis un jeu de cartes. Avoir un petit bout et même un atout, surtout quand on le mène au bout. Je suis...
Le tarot, bien sûr.
Je suis un jeu pour lequel les mecs sont exclus. Un peu de sororité, s'il vous plaît, mais limité dans sa vision du monde en noir et blanc. Des pions se promènent sur des carrés. Bref, jeu un peu chiant. Je suis...
Le bacchanal.
Les dames.
Les dames, c'est bien ça. Je suis un jeu dans lequel les moutons n'ont toujours rien compris puisqu'ils continuent de se faire la guerre au lieu de se fédérer et de combattre leur ennemi commun, le loup. Bref, on n'avance pas, divisé pour mieux régner. Je suis...
La guerre des moutons.
Oui. Je suis un jeu très populaire à l'apéro. Avec ce jeu, tu peux en toute impunité faire des blagues racistes, homophobes, raveleuses ou pédophiles, voire tout en même temps. Mon nom se compose de trois mots, une couleur, une action et un fruit exotique. Je suis...
Le blanc mangé coco.
Oh, Agnès, une adepte. Je suis un jeu durant lequel tu es un nain ou une naine, chercheuse au CNRS, chercheur d'or ou fouteur de merde. Tu creuses tant bien que mal des tunnels, ce qui est plus facile quand tu es une personne de petite taille pour te faufiler. Bref, tu traces ta route, mais il y en a toujours certains ou certaines qui t'en empêchent avec l'objectif de trouver de l'or. Alors, des nains qui cherchent de l'or et des autres nains qui t'emmerdent, je suis...
Le saboteur.
Yes. Je suis un jeu insupportable durant lequel des ongles ultra manucurés avec 5 cm d'épaisseur de résine sont de l'ordre du danger public et devraient légalement être interdits. Il te faut identifier des cartes identiques ou de la même couleur ou de la même forme. Au bout de 3 minutes, de toute façon, t'en sais plus rien car tu souffres de douleur avec tes mains déchiquetées en essayant d'attraper ce putain de totem. Je suis...
Encore Agnès.
Jungle Speed.
Le Jungle Speed. Je suis un jeu avec des cartes mignonnes qui font clairement référence à une ville médiévale où on mange du cassoulet. Ah, je sens que Fifille, là. D'ailleurs, on fait que construire. Bon, faut quand même que tu aies un seigneur pour construire, car si tu as des paysans, ben ils restent dans leur champ et attendent patiemment la fin du jeu pour voir les points de retraite enfin comptés.
En plus, si leur champ est petit, alors qu'ils ont trimé comme des bœufs toute leur vie, ben moins de points. Et si un autre joueur a réussi à placer plus de paysans dans ton pauvre champ que tu pensais à toi toute ta vie, ben tu gagnes zéro. Heureusement, le seigneur a des cartes qui comptent double et si en plus il a des blasons et un monastère, ça triple les points. Tu peux aussi caser un abbé dans son abbaye, ça emmerde les autres joueurs, et toi, bah, tu gagnes encore des thunes, enfin des points. Voilà, règle du jeu facile, car c'est un peu comme dans la vraie vie, mais avec des jolies constructions. Alors, tu l'as, Fifi ?
Carcassonne.
Bravo, bravo.
J'irais dire Castelnau dans la rue.
C'était l'autre. L'essentiel étant de participer, vous avez tous gagné, mais Agnès, un petit peu plus quand même. Et comme j'ai qu'un seul cadeau, je vais te l'offrir. Voici donc ce jeu de famille collector des JO. Édition Happy Family.
Pavé, l'émission qui dégrange.
Il y a longtemps, déjà, les dirigeantes et dirigeants avides de pouvoir se sont servis du jeu comme d'un écran de fumée, comme un dérivatif. Vous connaissez l'expression du pain et des jeux, elle nous vient tout droit de la Rome antique, sous la plume du poète et écrivain Juvénal, qui vécut durant l'Empire romain. En latin, du pain et des jeux, ça donne panem et circenses. En 2024, c'est JO à Paris et compagnie. Sans verser dans le sport bashing, j'ai des raisons de penser que l'on n'est pas bien loin de Panem et Circenses. Nous entendons des délires sur la qualité de l'eau de baignade de la Seine, alors que les Pyrénées-Orientales manquent d'eau, justement, et qu'inversement, dans le Nord ou même la Bourgogne, certains villages ont subi plusieurs crues centennales préoccupantes. À bien y regarder, avec ces aléas climatiques, on aura peut-être les jeux, mais pour le blé et le pain, c'est une autre histoire. Poursuivons notre voyage avec les mots grâce à une autre expression sur le jeu. Se prendre au jeu. Larousse nous dit que cela veut dire, ou figurer, être absorbé, prendre plaisir à une activité. Eh bien, je vous le dis, le 1er mai à Saint-Julien, près de 444 personnes, petites et grandes, se sont prises au jeu. Construction en pierre, en terre, en pisé, en Lego, en carton, jeux en bois, jeux de société, jeux d'adresse et même un manège à traction parentale. Il fallait voir pour le croire, bravo à la grange. Bravo au public pour sa bonne humeur, son fair-play et sa curiosité ce jour-là.
Well, you've got your diamond and you've got your pretty clothes and the chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father, be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you're playing with fire.
Brique et pavé,
l'émission qui dégrange.
Reprenons, si vous voulez bien, chères auditrices, chers auditeurs, avec une petite pirouette lexicale. Si j'enlève le R à l'expression se prendre au jeu, ça donne un truc moins bucolique. Se pendre au jeu. Eh bien oui, en ce mois de mai, j'ai décidé de jeter mon dévolu sur la française des jeux et ses dérives. Le 14 novembre 2019, l'Observatoire des inégalités publiait une étude intitulée « Jeux d'argent, un impôt sur la fortune du pauvre ». Les dépenses en jeux d'argent pèsent en effet sur les plus pauvres et les moins diplômés. L'État, autorité de tutelle du secteur et principal actionnaire de la Française des Jeux, exploite l'illusoire espoir d'un gros lot. Je vous livre quelques éléments de l'analyse et des propositions des deux économistes Quentin Duroy et Jeanne D. Wissmann qui ont écrit cette étude. Les recettes publiques issues des produits de la Française des Jeux, du PMU, des jeux en ligne et des casinos s'apparentent à un impôt régressif. Par opposition à l'impôt dit progressif, tel l'impôt sur le revenu, dont le taux s'élève avec les revenus. En effet, les ménages les plus démunis laissent à l'État, via les jeux d'argent, un pourcentage de leurs revenus supérieur à celui des catégories aisées. Les plus défavorisés jouent davantage et de fait payent cet impôt sur la base d'une promesse illusoire d'un futur meilleur. Petit calcul. Les dépenses totales en jeux d'argent s'élevaient en 2016 à 46 milliards d'euros selon l'INSEE. Les joueurs ont reçu en gain 36 milliards d'euros cette même année. Donc, si l'on calcule, ce sont 10 milliards d'euros qui sont revenus à l'État et aux actionnaires privés qui gèrent ces jeux d'argent. Les joueurs issus des foyers les plus pauvres consacrent aux jeux d'argent un pourcentage de leur budget 2,5 fois plus élevé que les autres foyers. Aujourd'hui, un adulte sur 3 joue aux jeux d'argent. Près de 60% des joueurs à risque pathologique ont des revenus mensuels nets inférieurs à 1100 euros et la quasi-totalité a au mieux un niveau d'études équivalent au baccalauréat. L'augmentation des offres de jeux de grattage permet à l'État de soustraire des fonds aux joueurs issus des milieux socio-économiques modestes. Vous comprenez pourquoi j'ai choisi l'expression « se pendre au jeu ». Toujours selon les auteurs, deux pistes seraient pourtant possibles pour éviter les dérapages. Le premier consisterait à diminuer le nombre de produits offerts, l'offre en quelque sorte, et la taille des lots. La seconde serait d'affecter plus directement une partie du produit des jeux, mes fameux 10 milliards, à des politiques de lutte contre les inégalités, comme par exemple l'augmentation des minima sociaux. On en est loin, les amis. Si l'on en croit son site internet, la Française des Jeux, main sur le cœur, s'engage pour faire gagner le jeu responsable. Waouh ! La FDJ dit déployer 3 axes pour réduire le risque jeu. Former et contrôler les commerçants, notamment sur l'interdiction de vente aux mineurs, informer le grand public et proposer aux joueurs des outils pour maîtriser leur pratique des jeux. Waouh ! Bon, moi, ce que je vois, c'est que des jeux à gratter, on en trouve maintenant dans les PMU, dans la TBA presse, dans les bars, mais aussi dans les épiceries multiservices et dans certaines boulangeries. Donc, on incite plutôt plus que moins. Drôle de façon de réguler le schmilblick. Preuve que cet impôt sur la fortune du pauvre est rentable. La conclusion qui s'impose est simple. Derrière le jeu, il peut y avoir les communs, version fête du jeu du 1er mai avec la grange et son cortège de bonne humeur. Et il peut y avoir aussi, derrière le jeu, l'appât du gain, version capitalisme débridé. Rien ne va plus, les jeux sont faits.
Brique en Bresse, le pavé dans la mare.
Avec Brique et Pavé, l'émission qui dégrange.
Dans cette émission sur le jeu, comment ne pas évoquer les Jeux Olympiques ? L'heure n'est pas encore au jeu, mais au passage de la flamme qui est arrivée à Marseille le 8 mai. Et cet épisode m'a amené à m'intéresser au coût des JO. Bien sûr, il faut considérer les coûts nécessaires à la construction d'infrastructures telles que gymnases, piscines, logements dans le village olympique. L'on nous dit que ceux-ci serviront plus tard à des jeunes, aux collectivités, aux étudiants, et je souhaite qu'il en soit ainsi. Il est intéressant de noter que certains équipements déjà existants seront utilisés dans différentes villes hors Paris et que cela peut diminuer le coût. Mais que dire de ces constructions pharaonesques et éphémères comme les carrières pour les Jeux équestres à Versailles ? Certains équipements existent, comme à Fontainebleau. N'eût-il pas été moins coûteux de les utiliser ? Qu'est-ce qui justifie ces travaux ? L'image. Le château de Versailles et les fontaines en fond d'écran pour les millions de téléspectateurs. Image, symbole. Arrivée d'un voilier qui a traversé la Méditerranée, affrontant une tempête, nous dit-on, mais ne chavirant pas, comme ces barques chargées de migrants qui, elles, n'arrivent pas toujours à bon port.
Briques et pavés, l'émission qui dégrange.
Si nous en venions aux chiffres, ce que dit le site sur le relais de la flamme, c'est que 65 territoires seront traversés. 37 départements ont refusé le passage de la flamme, pour lequel la somme de 180 000 euros devait être déboursée par chacun, sans compter les frais du jour J. Le passage de la flamme implique des gardiens de la flamme, sorte de garde rapprochée de 24 personnes, mais aussi des forces mobiles avant et arrière, des motards, des policiers et gendarmes sur place, des démineurs, le GIGN, 60 convois engagement, 40 convois agiles, quelques 6 à 7 000 personnes, mais aussi des experts de lutte anti-drone, des experts de lutte anti-piratage informatique. Des journalistes ont signalé que des enquêtes avaient été menées sur des habitants du vieux port de Marseille pour connaître leur vie, leur fréquentation. D'autre part, des agents des services techniques de Marseille ont été vus en train de souder les bouches d'égout pour éviter toute attaque par ces égouts. Une opération qui implique, quelques jours plus tard, de la part des services techniques, une opération inverse. Difficile de chiffrer tout cela, mais une information du COJO indique que le coût réel de l'événement s'élèverait à 450 000 euros par département traversé. Certes, ce passage de la flamme permet aux Français de participer gratuitement à cet événement national, ou du moins à la promotion de cet événement. Car pour ce qui concerne les JO à proprement parler, peu de Français pourront assister si l'on considère le coût des places, mais surtout celui de l'hébergement, qui n'a cessé d'augmenter. On parle même de tripler. Ces fluctuations, en fonction de l'offre et de la demande, sont particulièrement intolérables. La fête populaire annoncée perd ainsi de sa popularité. Un autre chiffre officiel connu concerne celui du coût du cadeau fait à tous les élèves d'école primaire du CP ou CM2. Ceux-ci ont été les destinataires d'un livret accompagné d'un jeu de cartes et d'une pièce de 2 euros. Coût total ? La bagatelle de 16 millions d'euros. Une promotion des JO auprès des jeunes enfants. Un choix de distribuer une pièce à chacun. Un autre choix aurait pu être fait, allouer une somme équivalente pour des équipements sportifs pour lesquels les écoles n'ont pas forcément de budget. Ce choix aurait eu une couleur plus collective, plus dans la philosophie des JO. Plus vite, plus haut, plus fort, à laquelle le mot « ensemble » a été ajouté lors de la réunion du CIO du 20 juillet 2021 à Tokyo. Situs altius fortus communitaire. Comme l'a souligné le président du CIO, Thomas Parr, nous ne pouvons aller plus vite, nous ne pouvons viser plus haut, nous ne pouvons devenir plus forts qu'en faisant preuve de solidarité.
Arrête de parler, parler, tu parles fort mais c'est juste du bruit. Arrête de flamber, flamber, tes billets c'est du monopole. Qui te berce.
commerce. Dans ton monde, c'est juste ordinaire, ordinaire. Tout ce qui t'intéresse, c'est de me mettre un genou à terre et de me faire taire. Prends plus de justesse, non, tu me mettras pas les fers. Je te retourne ta veste et le contrat qui mène aux enfers. Tu mets le feu aux poudres, mais ça va rien résoudre. C'est juste de la poudre aux yeux. Non, t'es pas sérieux pour me fourber. Tu brandis ta foudre et au premier éclair, tu fermes les yeux. Arrête de parler, parler. Tu parles fort, mais c'est juste du bruit. Arrête de flamber, flamber. Tes billets, c'est du monopoly. Arrête de parler, parler. Tu parles fort, mais c'est juste du bruit. Arrête de flamber, flamber. Tes billets, c'est du monopoly.
Alors Cathy, on continue la tournée des musées. Après Marseille, tu nous emmènes à Paris, c'est ça ?
En effet, direction le Louvre. Pour l'émission du jour, j'ai choisi un tableau de joueur de cartes qui s'appelle « Le tricheur à l'as de carreau ». Une toile de Georges de la Tour qu'il peint vers 1636, première moitié du XVIIe siècle. Ce tableau, d'un mètre de haut sur 1,50 m de long, montre quatre personnages représentés à taille réelle à partir de la taille, deux hommes et deux femmes autour d'une table. Le groupe se détache d'un fond sombre et il est éclairé par la gauche. Trois des personnages sont assis. Un jeune homme à gauche, habillé d'un manteau beige ajusté par une ceinture noire. C'est le tricheur. Au centre, une femme que l'on voit de face. Une courtisane dont la robe décolletée met en valeur son collier de perles. Et à droite, on voit un autre jeune homme de profil. Bon, c'est l'arnaqué. Ces trois personnages semblent commencer une partie de cartes, tandis qu'une servante sert un verre de vin à la joueuse.
À quoi joue-t-il au poker ?
L'ancêtre du poker, qu'on appelle la prime. Les joueurs ont peu de cartes en main et effectivement, c'est un jeu d'argent. Comme le titre l'indique, la scène de triche est évidente et la composition du tableau, le jeu des regards et les gestes le confirment. Le spectateur est témoin de l'arnaque.
Le peintre fait de nous des complices, en fait.
En effet, complice car spectateur impuissant. Le jeune homme va se faire plumer sous nos yeux. Les trois personnages à gauche sont liés par une intention commune, tromper le jeune homme.
Le joueur de droite.
Oui, celui aux joues rebondies, richement habillé d'une veste rose et beige, brodée de fils d'or et parée de bijoux, et regarde toutes les pièces d'or devant lui qu'il peut jouer. Ce personnage contraste d'ailleurs avec le joueur, le tricheur, cette fois, qui lui fait face en costume bien plus fade et qui, lui, n'a aucune mise devant lui. Notre victime est concentrée sur ses cartes, trop concentrée même, absorbée par son jeu et incapable de se rendre compte de ce qui se joue. Il est en train de se faire avoir.
Et quel est le rôle de la servante dans tout ça ?
Elle est debout, entre les deux joueurs, la courtisane et l'homme à l'habit beige. La servante sert un verre de vin. En fait, elle fait diversion pendant la manœuvre.
Le jeu des regards est important dans cette scène.
En effet, il est capital. La courtisane regarde la servante qui regarde le tricheur et ce tricheur attire notre attention de spectateur car son visage est tourné vers nous. Il nous regarde et en même temps, il nous montre ses cartes. On voit bien, tu vois, Philippe, on voit bien celle qu'il tient de la main droite, du carreau, mais aussi celle qui tient de la main gauche, deux as, dont l'as de carreau, carte décisive qu'il sort de sa cachette. Jusqu'alors, cette carte était dissimulée dans son dos, sous sa ceinture noire. Il sort cette carte dans un geste souple de sa main gauche, sans que son adversaire, figé, ne remarque quoi que ce soit.
Briques et pavés,
l'émission qui dégrange.
Le joueur dupé a du pique, je crois, dans ses mains. Ça veut dire quoi ?
Eh ben, tu sais bien, le carreau est symbole d'argent, de richesse, et le pique, quant à lui, est le symbole des difficultés, des peines à venir, tout prochainement pour notre joueur. Autrement dit, les cartes que l'on voit annoncent précisément l'issue de la partie. Bon, ce tableau a un caractère interactif, car le spectateur est happé par l'image, par cette histoire, et devine l'avant et l'après de la scène sur un thème finalement très utilisé en peinture, souvent peint, la triche. D'ailleurs, en lien avec ce tableau, vous pouvez aller à Bourg pour découvrir au musée de Brou De nombreux joueurs de cartes, des cartomanciennes, des diseuses de bonne aventure ou des mages capables de lire l'avenir grâce aux cartes. Cette exposition qui s'appelle Prédiction est à voir jusqu'à fin juin et je vous invite à découvrir cette expo et notamment l'œuvre exceptionnelle, presque documentaire de Gustave Doré, Les Saltimbanques, ces artistes de rue qui jouent pour notre plus grand plaisir.
Merci.
À bientôt.
La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulous, dynamiteur d'aqueduc.
Merci les amis pour cette émission. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Jeux de l'amour, jeux du hasard, bref, tous les jeux sont dans la nature. On se retrouve le samedi 15 juin dès 14h28 à la Grange aux Parapluies pour la fête de la gastro.
De
bisous, bisous.
Bye. Ciao, ciao.
Faites vos jeux.
Rien ne va plus.
Briques et pavés, pour aujourd'hui, c'est terminé.
Retrouvez-nous en podcast sur le site de Radio B
ou sur le site de la Grange au Parapluie.
Briques et pavés,
l'émission qui dégrange.